Bonjour à tous. J'ai peur. Mais le Seigneur, il est avec nous. Il est avec moi et je sais qu'il y en a qui ont prié. Parce que comme je l'ai demandé dans une réunion en semaine, il faut prier pour ceux qui apportent la parole parce que ce n'est pas une mission facile. Et on a besoin vraiment d'être inspiré par Dieu pour donner la nourriture que dont l'Église a besoin. Alors je voudrais commencer par prier. Merci Seigneur pour ce culte. Un culte, c'est un moment d'adoration envers Dieu. Et c'est avant tout nos louanges, nos cœurs que nous t'apportons, Seigneur. Et c'est aussi un moment où nous nous attendons à une communion avec toi, à un moment où tu parles. Et Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu dois parler au travers de moi, Seigneur. Alors je dois m'effacer et faire en sorte que ce soit ton esprit qui s'exprime dans ma bouche. Et Seigneur, merci parce que ce que tu as mis sur mon cœur, tu vas me permettre de le donner d'une façon la plus fidèle possible. Merci parce que tu nous aimes et tes entrailles sont remplies de miséricorde envers nous. Merci parce que nous pouvons vraiment être sûrs de cette miséricorde. Amen. J'étais content ce matin d'entendre Manu. Dans ce qu'il a dit, je me suis dit « Merci Seigneur ». Ça me donne une confirmation. Aussi dans ce qui a été partagé depuis par Pascal. Le Seigneur est bon et il conduit. Et ce que j'ai reçu sur le cœur, c'est de parler de la présence du Seigneur, la communication avec lui, comment entrer dans sa présence. Donc on va s'entretenir de tout ça ce matin et l'introduction avec le rocher, c'est déjà une très bonne illustration, c'est que c'est le point central de notre vie. Quand on a donné notre vie au Seigneur, on a besoin de ce fondement et d'asseoir toute notre vie sur le rocher qui est Christ. Et Manu a aussi cité un verset qu'on lira tout à l'heure. Cherchez et vous trouverez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin pour prendre du temps et chercher de tout notre cœur à entrer dans la présence du Seigneur? Alors, ça concerne tous ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Et bien sûr, ça concerne aussi ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur et qui ont besoin de s'approcher de lui et de le découvrir. Alors, je ne prétends pas couvrir la totalité du sujet parce que c'est énorme, mais on va au moins ouvrir quelques volets, quelques pistes qui, j'espère, vont nous apprendre à savoir comment trouver la présence du Seigneur, comment trouver sa volonté, comment entrer dans ce temple. Alors, vous savez, aujourd'hui, on a des super outils de communication. L'humanité n'a jamais eu autant d'outils de communication qu'aujourd'hui. Qui n'a pas de téléphone mobile? Enfin, moi, j'en avais pas un pendant longtemps. Je m'y suis mis pour les enfants, notamment, pour rester dans la course et pouvoir communiquer avec eux. Et aujourd'hui, c'est vrai, où qu'on soit, on arrive à donner de ses nouvelles, on arrive à recevoir des messages. Et les messages, il y en a de plein de sortes. On peut recevoir des SMS, on peut, si on tombe sur notre boîte vocale, on peut nous laisser un message vocal. On a Internet, on peut recevoir des emails, on peut aller chercher des infos. On n'en est plus à l'époque où il fallait faire des signaux de fumée. On a des modes de communication qui sont sacrément élaborés et pratiques. On peut même téléphoner dans la voiture aujourd'hui. Nous, on a changé de voiture et je suis émerveillé de voir que très facilement, on peut passer un appel ou recevoir un appel, c'est sans prendre de risque, sans triturer son téléphone au volant, et c'est super pratique. Mais qu'en est-il de notre communication avec Dieu? Tout ça, c'est beau, c'est utile, mais ça ne doit pas masquer la réelle communication qu'on a besoin de construire avec Dieu. Combien d'entre nous, on veut passer du temps avec le Seigneur, et puis, blam, un SMS qui arrive. Oh, un message d'un tel. Oh. Alors ce matin, je vous invite à couper tout ça Et même si tous ces outils sont super, mais ils ne doivent pas nuire à notre communication avec le Seigneur. Alors on va les éteindre, on va faire taire, comme le dit la Bible, faire taire tout bruit de la terre. Tout ce qui vient nous distraire, tout ce qui vient nous tracasser, on va le mettre de côté. Et ça, c'est ce qu'on doit faire chaque jour, dans le moment qu'on prend à part avec Dieu. Si on ne fait pas ça tous les jours, ou presque tous les jours, alors il nous manque quelque chose dans notre vie chrétienne. Alors on va faire taire tout bruit de la terre et on va se mettre à l'écoute du Seigneur. Comment entrer dans sa présence? Si on consulte la Bible, parce que c'est quand même notre livre de bord, hein, on ne peut pas l'oublier, dans Hébreux 11, 6, donc je laisse un peu de temps pour ceux qui veulent tourner les pages. Bon, moi j'ai tout copié avec l'ordinateur, c'est pratique, on fait des copier-coller. J'ai pas mes pages à tourner, ça me fait gagner du temps. Donc dans Hébreux 11, verset 6, on peut lire un premier verset. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est un verset que je connais depuis ma plus tendre enfance et je ne le comprenais pas forcément, moi, rémunérateur de ceux qui le recherchent, ça ne me disait absolument rien du tout. Aujourd'hui, ça me parle plus. Rémunérer, quand on commence à toucher un salaire, on sait une rémunération, on sait que c'est important, si on n'avait pas ça qui tombe à la fin du mois, on se demanderait comment faire pour joindre les deux bouts. Ben oui, Dieu, si on le cherche, il va nous rémunérer. Il ne va pas nous donner des sous, mais il va nous donner sa présence. Et c'est ça qu'on attend de lui, cette rémunération. Alors, on va regarder les mots-clés de ce premier verset. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Premier ingrédient pour nous approcher du Seigneur, la foi. Sans cette foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Donc il faut s'approcher. Il faut croire et il faut s'approcher. Si tu crois en Dieu et que tu gardes bien tes distances avec lui, tu rates l'essentiel. Il faut que tu croies et que tu t'approches de lui et que tu le cherches. Croire, s'approcher, chercher. On va creuser dans ces différents éléments au fil de notre partage. Croire en Dieu. Croire que Dieu existe. Ça veut dire que quand tu prends ta Bible ou quand tu pries au matin ou au soir, suivant tes habitudes, tu ne peux pas t'ennuyer. Tu ne peux pas trouver ce moment-là ennuyant parce que si tu crois qu'il existe, alors tu crois qu'il est avec toi. On est d'accord. Donc au moment où tu entres et que tu veux passer du temps avec lui, que tu commences à feuilleter les pages de ta Bible, tu dois savoir que ce Dieu auquel tu crois, il est là. Il est présent et tu vas te mettre à t'approcher de lui. Tu vas commencer à le côtoyer, à le connaître, à le découvrir, à le chercher. Alors tu ne peux pas trouver ces moments-là ennuyants, ce n'est pas possible. Et c'est vrai, quand on débute dans la foi, on peut dire, allez, ben, je vais lire, allez. Oh, c'est un long chapitre. Oh, bon, je vais essayer de regarder ailleurs. Oh, puis ça ne me parle pas. Et puis on feuillette la Bible. Comme ça qu'on trouve Dieu. Accroche-toi. Parce que c'est marqué, il faut que tu t'approches de Dieu et que tu le cherches. C'est vrai qu'il est écrit qu'il se laisse trouver à ceux qui le cherchent, mais il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Et c'est vrai que bah, y a des moments dans notre vie où, bah ouais, c'est aride. On a l'impression qu'on ne tire pas grand-chose de nos lectures, mais persévère. Vous savez, quand je me suis converti à 16 ans, j'ai pris mon baptême à 16 ans. et je passais beaucoup de temps à lire la Bible et à prier tout seul dans ma chambre. Je ne dis pas que je suis un modèle, il y en a pour qui ça s'est fait autrement, mais j'ai appris énormément de choses dans le temps que je passais en lisant ma Bible quand j'étais ado de cet âge-là. Je vous dirais que la plupart de ce que je sais de la Bible a été éclairé, vient de cette époque où je passais beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Et vraiment, le Seigneur me parlait. À chaque fois, je le cherchais et je le trouvais à chaque fois sans mal. Et ça me faisait du bien. Et ça me fait toujours du bien de passer du temps avec le Seigneur. Vous savez, quand je préparais ce partage, j'ai passé du temps, là j'ai de la chance, c'était pendant les vacances. Et vraiment, je pouvais entrer dans la présence du Seigneur et me tenir auprès de lui et recevoir de lui la semence que je devais vous donner. Et qu'est-ce que ça fait du bien de creuser, de lire les versets, de se nourrir, de nourrir son âme avec ces versets qui parlent de Dieu. Et ainsi, quand on est dans la présence du Seigneur, ben, on peut lui parler comme à un ami. On peut vraiment lui dire tout ce qui est en nous. « Seigneur, tu vois ça, ça me tracasse. » Et étaler devant lui. Ne pas avoir peur de lui dire ce qui nous tracasse. C'est ça aussi, entrer dans la présence du Seigneur. C'est lui partager tout de nous, tout de notre vie. Parce que lui veut mettre son doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur ce dont on a besoin. Et si on lui livre tout notre cœur, eh bien, ça va nous faire du bien. On va vider son cœur au pied du Seigneur. On va le laisser couler et on va laisser se dérouler devant lui tout ce fil de notre vie, tous nos tracas, tout ce qui nous embarrasse, tout ce qui nous cause des soucis. Bon, au lieu que ça nous empêche de prier, ben justement, laissons-le s'exprimer devant Dieu. Et lui va faire quelque chose de tout ça. Il va nous en décharger. C'est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai, je vous donnerai du repos. » Alors si tu veux jouir de ce repos de Dieu, ben viens, répands ton cœur devant lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans ces moments que tu passes avec le Seigneur, dis-lui ce qui te tracasse. Vous savez, j'avais 11 ans, 10-11 ans. À l'époque, je voulais toujours faire du violon, mais il n'y avait pas de prof de violon à l'école de musique où j'étais. C'était une petite école de musique municipale de Liévin. Et puis, lors d'une audition, j'avais entendu une fille qui jouait super bien du saxophone. Et je m'étais dit, finalement, du saxo, ça me plaît aussi. Et seulement, un saxo, ça coûte toujours bien cher. Et mes parents ne pouvaient pas m'en payer un. Et je devais attendre que l'école de musique en ait un disponible pour le prêter. À l'époque, c'était prêté gracieusement aux familles. Et puis, toutes les semaines, je voyais mon prof de solfège, c'était Monsieur Gamard. Et Monsieur Gamard, c'était le professeur de saxophone aussi. Et j'allais le voir, monsieur. Est-ce que mon saxophone, il est arrivé? Ben non, il m'appelait le petit Mouraviec, hein. Bon, je ne suis pas beaucoup plus grand maintenant, c'est le petit Mouraviec. Ben non, mon petit Mouraviec, il n'est pas encore là ton saxophone, il est en réparation. Et puis ça a duré des semaines et des semaines et des semaines. Mais moi, je croyais en Dieu déjà, je savais qu'il existait, je ne l'avais pas encore rencontré, mais je savais qu'il existait. Et puis je me souviens de ce soir où je me lavais les mains avant d'aller à l'école de musique, et j'ai dit au Seigneur, avec une foi d'enfant, « Seigneur, fais que ce soir je revienne avec mon saxophone. » Et puis je suis allé au cours de solfège, comme d'habitude, et j'étais à peine arrivé, et le petit Mouraviec, c'était Monsieur Gamard au fond, dans la classe, et le petit Mouraviec, « Va voir Monsieur Cachard au bout du couloir, il a quelque chose pour toi. » Alors je suis allé voir Monsieur Cachard au bout du couloir, et puis il me dit « Ah !» Et il a pris une grosse valise, il l'a posée sur son bureau, il l'a ouverte. C'était mon saxophone. Le Seigneur, il avait entendu ma prière. Et j'étais déjà bien marqué par le Seigneur parce que, il m'avait entendu. Il m'avait entendu. J'avais parlé à Dieu, je lui avais dit que j'aimerais bien. C'était lourd, ça m'inquiétait. Je lui avais fait part de cette inquiétude et il m'avait répondu. Et j'étais vraiment content, j'avais remercié le Seigneur parce qu'il avait répondu à ma prière, il avait répondu à cette foi d'enfant du petit Mouraviec. Et j'avais cru que c'était possible, qu'il pouvait répondre à ma prière. Et dans nos moments avec le Seigneur, croyons de tout notre cœur qu'il est là. Et si tu es jeune, tu es ado ou adulte, âgé, sache bien que quand tu prends du temps avec le Seigneur, il le voit, il est honoré par le temps que tu vas lui offrir. Il est honoré par les paroles d'intimité que tu vas lui exprimer. Il va être honoré par ce qui te tracasse et que tu vas étaler devant lui. Parce que pour lui, c'est signe que tu l'aimes et que tu lui dis tout de toi. C'est ton ami intime. Et il est honoré parce que tu veux bien partager avec lui tout de ta vie. Et si tu entres dans cette démarche, sois bien sûr d'une chose, Dieu va venir vers toi. C'est impossible qu'il ne vienne pas vers toi. Alors, tu dois aussi croire dans ces moments-là d'intimité avec le Seigneur que tu as le droit de t'approcher de lui. On peut avoir un sentiment de culpabilité tel que nous nous disions « Ouais, mais ça, moi, je peux pas. Eux, ils peuvent. Ils sont saints. Ils sont chrétiens. Ils mènent une bonne vie. Moi, je peux pas m'approcher du Seigneur. » Tu as peut-être raison de croire que tu es pécheur, mais tu as tort de croire que les autres ne le sont pas, parce qu'on l'est tous. On est tous coupables. Dieu s'est écrit dans Romains, il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, tu ne dois pas te dire, eux ils sont meilleurs, c'est pas pour moi. Non, Dieu t'a fait grâce. Et on va ouvrir une petite parenthèse sur la miséricorde de Dieu, parce que si tu ne crois pas en cette miséricorde, tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. Dans Romains 8, 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Aucune. Alors, tu dois saisir de tout ton cœur que Dieu ne te regarde pas avec un œil qui te condamne. Tu peux sentir de tout ton cœur que le regard de Dieu qui se pose sur toi, c'est un regard d'amour et de compassion. Il ne te condamne pas. Souvenons-nous tous de l'histoire de la prostituée. Elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens l'avaient traînée devant Jésus. Selon la loi, elle devait être lapidée. Est-ce que Jésus l'a regardée avec ce regard de jugement et de condamnation? Non. Il lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Après avoir donné une sacrée leçon à tous ceux qui l'a condamné. Alors sache bien que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton passé, quelles que soient les pensées que tu as dans ton cœur, si tu viens à Dieu de tout ton cœur, il ne te condamne pas, il te pardonne. Si nous avons demandé pardon à Dieu, nous devons rejeter tout sentiment de culpabilité parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si tu te sens encore coupable, c'est un mensonge. Parce que c'est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si tu écartes ce mensonge de toi, tu peux te dire « j'ai le droit de m'approcher de Dieu ». Parce qu'on l'a lu, il faut que celui qui s'approche de Dieu. Donc pour t'approcher, il faut que tu fasses cette démarche de t'approcher. Et si tu as peur de t'approcher, tu ne t'approches pas. Si tu as un sentiment de culpabilité, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Ça t'empêche, c'est une barrière. Mais le mur, il n'y en a plus. Il a été retiré. Jésus a retiré ce mur qui nous séparait de Dieu. Donc tu n'es plus coupable, il n'y a plus de condamnation, et tu as donc le droit de t'approcher de Dieu sans craindre. Alors quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu aies fait, tu as le droit de t'approcher de Dieu. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé avec le voile? Ce fameux voile qui était là comme un écran qui empêchait d'entrer dans la présence de Dieu les communs des mortels. Il n'y avait que le souverain sacrificateur, une fois par an, qui pouvait passer par là. Les autres ne pouvaient pas. Ce voile était fermé. Et quand Jésus il est mort, qu'est-ce qui s'est passé avec ce voile? Il s'est déchiré. Par le milieu, d'en haut jusqu'en bas. C'est un symbole, mais quelque chose de réel qui s'est produit. Et c'est bien le signal qui montre que désormais, on peut s'approcher de Dieu. On peut s'approcher de Dieu. Alors ne t'en prive pas. Approche-toi de ce Dieu, de cette pierre vivante, et entre dans sa présence. Hein, ça c'est dans Marc 15, 38, mais on le trouve dans tous les évangiles. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alors s'il n'y a plus ce voile, pourquoi tu vas t'en construire un avec ta culpabilité? Elle n'a plus lieu d'être. Tu peux entrer dans la présence du Seigneur. Et je voudrais continuer parce que nous bénéficions donc tous de cette miséricorde. Vous savez, dans le psaume 136, on ne va pas le lire, mais je vous invite à le lire chez vous. Ce psaume 136, il a un joli refrain. Vous le connaissez tous. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Tous les versets pairs ou impairs, c'est car sa miséricorde durera toujours. Et il y a un verset, et puis... Car sa miséricorde durera toujours. Un autre verset, car sa miséricorde durera toujours. David avait bien compris. Sa miséricorde durera toujours. Alors, plus de culpabilité, plus de condamnation, parce que sa miséricorde durera toujours. Sois bien sûr d'une chose, c'est qu'il t'a fait miséricorde. Et de toute façon, s'il ne nous avait pas fait miséricorde, il n'y aurait plus rien à espérer. On est tous pécheurs, on est tous coupables, et si Dieu ne nous avait pas fait miséricorde, on ne serait pas là ce matin. Tous. Parce qu'il n'y en a aucun pour racheter l'autre. On peut être sûr que Dieu nous a fait miséricorde et qu'on peut s'approcher de lui. D'ailleurs, il nous appelle à nous aussi nous imprégner de cette miséricorde. Parce que dans Colossiens 3:12, il est écrit ainsi donc, « Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, etc. » Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. De la même façon que Dieu nous a fait miséricorde, nous devons aussi nous faire miséricorde les uns aux autres. Il y a toujours un moment où on a pu froisser, où on a pu faire mal, où on a pu être maladroit, où on a pu avoir une parole un peu plus haute que l'autre. Ça arrive. Mais Dieu nous demande à nous aussi d'avoir ses entrailles de miséricorde. Alors si nous baignons dans cette présence de Dieu, alors ça ne peut pas être difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a fait mal. Parce que Dieu nous a fait miséricorde à nous-mêmes. Ça a été lu il n'y a pas longtemps, hein, cette parabole de celui qui avait une dette qui a été remise et puis un autre lui devait aussi de l'argent, puis il l'a attrapé par le callback. Sa dette lui avait été remise à lui, comme Dieu nous a remis notre dette à nous. Et on irait retenir la dette à un frère ou une sœur. Non, mais on se prend pour qui ? Revêtons-nous de ces entrailles de miséricorde pour nous aussi pardonner. Cherchez Dieu. Et là, c'est le verset que Manu a cité tout à l'heure, dans Matthieu 7,7, mais on le trouve dans les autres évangiles aussi. Je vais vous le lire. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est pour moi qu'il le dit. Je répète ce que Jésus a dit. Ça paraît complètement logique. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, mes enfants le savent. Je leur dis souvent ça. Hein. Cherchez et vous trouverez. Oh, t'arrives pas à résoudre ton problème de maths? Eh ben, cherche. Avant de venir me demander de l'aide, cherche. Parce que ça va t'enrichir beaucoup plus si tu trouves parce que tu as cherché que si je t'explique. Et Dieu veut aussi la même chose par rapport à lui. Cherche et tu trouveras. Si tu frappes à la porte de Dieu, sois bien sûr que la porte va s'ouvrir. Jamais il ne va laisser sa porte fermée. Il va peut-être pas l'ouvrir tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va l'ouvrir. Mais il veut que tu cherches. Il veut que tu frappes à la porte. Et dans ces moments d'intimité avec le Seigneur, sache bien que c'est enrichissant de prendre le temps de chercher Dieu, de t'agenouiller au pied de ton lit et de le chercher, de le prier, de lui dire l'amour que tu as pour lui, de lui dire que tu veux aller plus loin avec lui, de lui dire que tu veux le découvrir plus, que tu veux apprendre plus de lui dire « Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie, je veux que tu me parles, je veux que tu m'enrichisses de toi. » Ah, mais si tu fais ça, sois bien sûr qu'il va ouvrir la porte. C'est sûr. Je l'ai vécu, je le vis encore. Et si tu ne l'as pas encore vécu, je veux que tu le vives. Et c'est pour ça que je te parle ce matin. Si tu veux vraiment trouver ce Dieu vivant, si tu mets tout ce que tu as pour le trouver, c'est sûr que tu vas y arriver. Il n'y a pas longtemps, je faisais un tour à vélo avec Anne. Tu m'en voudras pas, Anne. Hein. Et puis, on aime bien faire du vélo de course à deux. Et puis, ben, Anne, elle y va bien au début. Hein. Elle met tout ce qu'elle a. Puis au bout d'une trentaine de kilomètres, ça devient dur. Et puis on avait fait une boucle et puis on remontait. Vous savez, il y a une bonne côte là dans le bois des 8 rues en remontant vers Morbec, en partant de Wallon-Capelle. Oh, puis là, ça ralentissait. Alors moi derrière, bon, évidemment, je dois rétrograder parce que je voulais rester avec elle. Oh, puis je lui ai dit, Anne, quand même, là, hein, on va vraiment pas vite. Hein. T'es sûr que tu donnes vraiment tout ce que tu as? Et on connaît peut-être le film, hein, Devant les géants, là, où le manager de l'équipe, il disait, donne tout ce que tu as. Et mes enfants le connaissent. Hein. Donne tout ce que tu as. Alors je lui ai dit, écoute, Anne, vas-y, donne tout ce que tu as. Et puis elle est remontée en danseuse, et, boum, boum, et puis boum, on a continué à un rythme quand même qui était plus intéressant. Ben oui, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Si tu n'y mets pas plus du tien, si tu traînes des pieds, si les pages de ta Bible sont bien lourdes à tourner, ben il ne va pas se passer grand-chose. Il ne se passera pas grand-chose. Mais si tu y mets vraiment du tien, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et je t'encourage vraiment à mettre tout ce que tu as en le cherchant. Et c'est sûr, tu vas le trouver. C'est sûr. Enfin, je dis enfin, c'est pas fini, on continue. C'est pas en triturant ton téléphone, en étant sans arrêt coupé avec les SMS d'un tel et d'un tel, que tu vas avancer dans cette démarche. Je dis pas qu'il faut pas, hein. On en a besoin. Mais dans les moments où tu te dis, là maintenant, je veux passer du temps avec le Seigneur, range ton téléphone, mets-le de côté et isole-toi. Parce que dans Matthieu 6, Jésus lui-même a dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce sera la rémunération. Tu vas jouir de sa présence. Et ça, vraiment, c'est le plus beau des cadeaux. Quand on entre dans sa chambre, qu'on ferme la porte et qu'on entre dans la présence du Seigneur, il nous donne notre rémunération. Sa présence nous remplit et qu'est-ce qu'on est bien. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on est bien dans sa présence? On voudrait que ça dure encore et encore. Mais il faut que tu entres dans ce lieu secret où il n'y a que Dieu et toi, rien d'autre, rien de tout ce qui est de la terre, rien de tout ce qui va te déranger, rien de tout ce qui va perturber cette relation profondément personnelle et intime avec ton Dieu, avec notre Dieu. Laisse tout le reste. Tu y reviendras après. Mais prends-toi vraiment ce temps avec Dieu, dans l'intimité. Moi, je sais, quand j'avais 16 ans, je passais beaucoup de temps. En même temps, vous me direz, j'avais pas grand-chose d'autre à faire. J'avais pas d'ordinateur, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Mes parents étaient très sévères, je ne pouvais pas sortir. Je n'avais pas tellement de distractions. Il me restait une chose. J'aimais vraiment le Seigneur et je l'aime toujours. Ben, je passais beaucoup de temps avec lui. Et ça a marqué ma vie. Ça m'a vraiment marqué, comme une marque au fer rouge. Et n'hésite pas à prendre ce temps aussi avec lui. On en a du temps. Les jeunes, vous en avez du temps aujourd'hui. Gérez-le pour en garder pour le Seigneur. Donc, il faut s'isoler. Vous savez, Jésus n'a jamais vu dans les évangiles que c'était marqué qu'il s'éloignait, s'isolait tout seul sur la montagne pour prier, non? Vous n'avez jamais vu? Ben si, c'est marqué. Si même lui, il en avait besoin, combien nous, à plus forte raison? Jésus, il avait l'Esprit de Dieu en lui, il était un avec le Père, et il avait besoin d'aller s'isoler pour parler avec son Père. Et nous alors, on en a encore plus besoin, encore plus que Jésus. Donc cherchez Dieu, cherchez Dieu, cherche-le. Chercher Dieu, ça veut aussi dire chercher sa volonté dans ta vie. Vous savez, Jésus, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'était ça, la nourriture de Jésus. C'était être en communion avec son Père et de faire sa volonté. C'était son festin. C'était le but, d'ailleurs, de toute sa vie. Ça doit être le but de la nôtre aussi. Même si nous, on a l'impression qu'on a plein d'autres choses à faire en plus. Mais notre vie entière doit être un mouvement d'adoration et de service envers Dieu. Et je voudrais avancer. Cette recherche de la volonté de Dieu, ça veut dire aussi, ça implique la soumission de notre volonté à la sienne. Ma volonté, elle doit s'effacer devant la sienne, dans cette communion avec lui. C'est sa volonté, c'est son être, sa présence qui doit venir nous remplir. Dans cette recherche de la volonté de Dieu, il ne faut pas oublier aussi la recherche de l'Esprit de Dieu. Sans cet Esprit de Dieu, on serait bien malheureux, hein, on est d'accord? Et on va ouvrir une petite parenthèse sur cet Esprit, cette recherche de l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit dont il est question dans Romains 8,16. Et j'aime bien ce verset. L'Esprit avec un grand E, l'Esprit de Dieu, lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'aime bien, c'est l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans ce moment de communion extrême avec Dieu, notre esprit, il vient s'approcher de celui de Dieu et les deux communiquent. Ils font un. Il faut que ça fasse un. Comme dans un couple, on est un peu marié avec Dieu. D'ailleurs, le mariage, c'est bien une image de cette relation du chrétien, de l'Église avec Christ. On est bien l'épouse. Dans ce moment de communion où l'Esprit de Dieu et le nôtre ne doivent plus faire qu'un, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit et il lui dit « Tu es mon enfant ». Et moi j'aime bien être dans cette présence du Seigneur où son esprit est là et il me dit « Tu es mon enfant ». Qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre. On l'entend peut-être pas avec nos oreilles, mais on l'entend avec notre esprit. Est-ce que ton esprit a déjà entendu l'Esprit de Dieu te dire « Tu es mon enfant ». Si tu ne l'as pas encore entendu, ben, il faut que tu t'en approches plus. Et je t'assure, tu vas l'entendre te le dire. Tu vas entendre l'Esprit de Dieu qui va te dire « Tu es mon enfant ». Et ça fait du bien de l'entendre. Vous savez, dans ce verset de communion avec, entre les deux esprits, l'Esprit de Dieu et le nôtre, on peut quand même remarquer que Dieu n'ignore pas l'existence de notre esprit. Il sait qu'on a un esprit en nous et il veut entrer dans cette communion entre avec son esprit et le nôtre. Mais notre esprit, il doit être soumis à l'Esprit de Christ. Dans cette soumission, notre esprit ne doit pas prédominer dans notre vie. C'est l'Esprit de Christ qui doit prédominer. D'ailleurs, notre esprit à nous nous joue bien des tours. On sait tous qu'on a des hauts et des bas, on est d'accord? Si on appuie notre vie uniquement sur notre esprit à nous, qu'il y a des jours on est tout en haut, alors là, on file. Mais il y a des jours, on est tout en bas. Et c'est bien dur. On connaît tous l'histoire d'Élie, qui, dans un moment très haut, où Dieu avait répondu, vous savez, juste après que le ciel ait été fermé, pendant un peu plus de 3 ans, plus d'eau, Dieu l'a nourri, il a envoyé des corbeaux, il a vécu quelque chose de très fort avec Dieu. L'apothéose, ben voilà, la pluie est tombée, et puis ce sacrifice-là, vous savez, le feu qui est tombé sur l'autel, les prophètes de Baal qui avaient fait toute leur carmagnole autour de l'autel et il ne s'était rien passé, et Élie, comment il a pu faire une magnifique démonstration que son Dieu, c'était le vrai Dieu. Il était tout en haut. Et puis Jézabel le menace de mort, il s'est enfui et on le retrouve pas longtemps après dans un état de dépression dans la caverne. Vous connaissez cette histoire, hein? Ça arrive même à Élie, même à des chrétiens costauds. Il y a des moments, on ne fait pas attention. Et puis, c'est notre esprit qui ressort, qui repasse devant. Et puis, on est soumis à cette vague. Et on est tout en bas. Et l'Esprit de Dieu s'est approché de lui. Il a été nourri par ce pain et cette nourriture que lui a apporté l'ange. Et il a remarché, il a tout traversé le désert et il était reparti avec Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu qui conduit ta vie, alors ton esprit ne va plus te soumettre à ces hauts et ces bas, à ces moments où tout va bien et ces moments où tout va mal, parce que dans Jacques 1,17, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, écoutez bien la suite, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » L'Esprit de Dieu qui veut vraiment entrer en communion avec le tien, en cet esprit, il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Il est toujours égal à lui-même, toujours aussi fort. Et il faut que ton esprit lui soit profondément accroché. Et là, même si tu as un tempérament à avoir des hauts très hauts et des bas très bas, c'est la solution. Si ton esprit est soumis à l'esprit de Christ, alors tu vas faire moins de vagues dans ta vie. On est tous soumis à des vagues. On le sait. Après un moment super, il y a toujours un moment plus dur. Mais avec l'esprit de Christ, si tu le laisses conduire ta vie, et si ton esprit est vraiment en relation avec l'esprit de Christ, alors tes hauts seront peut-être moins hauts, tes bas seront moins bas ou tu seras toujours en haut, mais il y aura moins de vagues dans ta vie. Et c'est précieux de ne pas avoir de vagues. Parce que dans les vagues, dans les bas, on se fait mal et on fait mal aux autres aussi, à ceux qui nous entourent. Et ensuite, ça passe vite, il faut persévérer. Chercher, ça veut dire persévérer. C'est évident. Parce que ça ne va pas s'ouvrir tout de suite, le ciel ne va pas s'ouvrir tout de suite. Il faut que tu persévères. Et là, on pourrait rapidement voir l'histoire de Jacob. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein dans la Bible, des exemples de persévérance. Jacob, il a demeuré seul. Et dans Genèse, chapitre 32, verset 24, je vous le lis en vitesse. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et dans ces moments que tu passes avec le Seigneur, est-ce que tu es prêt à dire au Seigneur, « Seigneur, je ne me relèverai pas tant que je ne t'aurai pas rencontré, tant que ma main ne t'aura pas touché ?» Jacob, il a reçu la bénédiction qu'il voulait. Il s'est battu toute la nuit, jusqu'à l'aurore. Et à l'aurore, c'est un peu mystérieux cette histoire. C'est cet homme, cet ange qui était là, il voulait partir parce que le jour se levait. Et Jacob lui a dit, mais non, je te lâcherai pas. Je veux que tu me bénisses. Et d'ailleurs, Jacob a été béni. Son nom a été changé en Israël à partir de ce moment-là. Et si on le regarde d'ailleurs dans son comportement, parce que juste après, il devait revoir son frère Ésaü, et il l'avait quitté en mauvais termes. Ça fut la réconciliation et il n'a plus été le même. C'était plus le même Jacob parce qu'il avait rencontré Dieu. D'ailleurs, lui-même l'a compris. Il le dit, c'est écrit un petit peu plus loin. Jacob dit, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Il a réalisé que la personne avec laquelle il s'est battu, qu'il n'a pas voulu lâcher à l'aurore, ah, c'était pas n'importe qui. C'était celui qui a changé son nom, celui qui a marqué sa vie, et Jacob n'a plus jamais été le même. Et toi, c'est pareil. Si tu rencontres ce Dieu dans ce moment intime avec lui, crois-moi, tu seras marqué par Dieu. Et ta vie ne sera plus la même. Et enfin, on arrive à la fin. Trouver. Parce que quand on cherche, on trouve. Vous savez, j'aime bien cette histoire des deux disciples dans Luc 24, 32. Vous savez, ces deux disciples qui étaient en chemin et puis ben Jésus s'est pointé sur leur route. Et il a parlé avec eux, il leur a expliqué. Et les disciples d'ailleurs, ils prenaient cet individu pour quelqu'un d'assez ignare, mais était le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Et Jésus leur a expliqué le sens profond de ce qui s'est passé en le rapprochant des Saintes Écritures. Et puis, un peu plus tard dans la soirée, au moment où Jésus a rompu le pain, il a disparu. Et là, les disciples, ils se sont dit, « Mais ça y est, c'était Jésus. C'était lui. » Et vous savez ce qu'ils ont dit ? J'aime bien ça. « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?»« Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Est-ce que tu as déjà senti que ton cœur brûlait quand tu étais dans l'un de ces moments avec lui ? Si tu n'as pas encore vécu ça, alors il te manque quelque chose. Cherche Dieu. Prends le temps, passe du temps avec lui et tu vas voir ton cœur, il va se mettre à brûler parce que tu vas sentir que Jésus s'approche de toi et il va venir marquer ta vie. Le visage, ton visage ne sera même plus le même. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Ah, cet homme qui est entré dans la présence de Dieu et il parlait avec Dieu, c'est marqué, hein ? Il parlait avec Dieu, avec lui. Et d'ailleurs, quand il revenait de ces moments-là, qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait mettre un voile sur son visage parce que son visage, la peau de son visage, était illuminée. Oh, quelle chance il avait de côtoyer ainsi la présence de Dieu à un tel point que son visage rayonnait de la présence de Dieu. C'était exceptionnel. N'avait pas envie d'entrer dans cette présence de Dieu et de vivre des moments inédits, uniques dans votre vie, dans sa présence. Être en relation, pour conclure, être en relation avec notre Créateur n'est pas du tout une option de la vie chrétienne. Si tu veux vraiment être chrétien, il faut que tu vives ça. Sinon, tu n'es pas un vrai chrétien. Un chrétien, c'est un petit Christ. C'est quelqu'un en qui Christ habite. Et ailleurs, je ne l'ai pas lu, mais on va le lire maintenant. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors il faut que tu vives cette proximité de Dieu parce que sans avoir côtoyé ce Dieu comme ça, dans ses moments intimes, tu ne peux pas lui appartenir. C'est superficiel et tu ne tiendras pas la route. Tu as besoin d'entrer dans cette présence de Dieu. Alors j'espère t'avoir donné envie de passer le temps qu'il faut pour chercher la présence de Dieu. Et si tu le cherches, je te le promets au nom de Jésus, tu le trouveras. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est celle de Jésus. On ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche, il trouve. Est-ce que tu es prêt à chercher et à t'en donner les moyens ? Parce que ça, c'est ta part. La part de Dieu, c'est de te permettre de trouver. Alors cherche et tu trouveras. Je propose qu'on passe juste quelques minutes, parce que j'ai dépassé le temps, quelques minutes pour prier. Et si tu as reçu cette envie de chercher Dieu, tu ne vas peut-être pas le voir maintenant, hein, mais chez toi, je t'incite à entrer dans ta chambre, à fermer ta porte et à mettre en pratique tout ce que tu as entendu ce matin. Et je t'en assure, il se passera inévitablement quelque chose. Prions. Merci Seigneur, parce que tu es infiniment bon. On a tellement envie de te connaître, de te rencontrer. Ta personne est tellement admirable. Ton esprit est tellement beau. Et Seigneur, nous avons un désir, une envie. C'est d'entrer dans cette présence, d'entrer dans ce lieu saint. Parce que nous le pouvons, nous en avons le droit et nous devons le faire. Ô Seigneur, bénis toute cette Église, tous ceux qui ont entendu ta parole, et que ta parole nous imprègne nos cœurs, et que tous nous ayons vraiment envie d'entrer dans cette présence de ce Dieu qui nous a sauvés. Bénis nos cœurs, Seigneur, et que ton esprit s'approche de notre esprit. Amen.